Bonsoir. Donc moi, je vais vous parler de ce livre de Philippe Descola qui s'intitule « La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier ». C'est un livre qui a été publié en 2014, soit 9 années après le livre qui a rendu Philippe Descola célèbre, à savoir « Par-delà nature et culture ». Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que c'est une aide précieuse pour comprendre la pensée de Philippe Descola. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui suit l'ordre de la découverte et non pas l'ordre de l'exposition. Parce que l'autre livre suit l'ordre de l'exposition, systématique de mon point de vue, le premier, ce qui rend difficile la compréhension. Hein. Alors, le titre est énigmatique, hein, « La composition des mondes ». Parce que pour nous, le monde, c'est l'ensemble des choses et des êtres existants. Alors, quand on parle des mondes, c'est quand on oppose ce monde-ci et le monde de l'au-delà ou le monde d'avant, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça l'objet. Hein, l'idée de Descola, c'est que, de fait, il n'y a pas que le monde tel que nous le pensons et l'avons construit. C'est-à-dire que il y a la composition du monde de l'Occident avec la notion de nature posée par l'homme qui s'en distingue. C'est une manière de composer le monde et il y a d'autres compositions. Hein, ce qui fait que le titre aurait pu être, de mon point de vue, aussi « Les compositions de monde » ou « Les compositions » ou « La composition de monde ». Bon, alors je ne sais pas si ça sera éclairci ensuite. Bien. Alors, mon objet, il comporte 4 parties, pas vraiment égales. Hein, elles vont de 80 à 120 pages. Bien. Hein, mais mon objet sera de prioritairement mettre en évidence l'opposition entre animisme et naturalisme, qui, à mon sens, est le centre de la pensée de Philippe Descola. Hein, ce qui nous conduira à préciser les 6 concepts regroupés 2 par 2 à partir desquels il pense toutes les compositions du monde possibles. Hein, alors humain, non-humain, intériorité, physicalité et continuité, discontinuité. Voilà. Alors, je suivrai plus ou moins, hein, j'aurai 4 développements. Le premier, il sera bref, il renvoie à la première partie, qui est la plus longue, laquelle est très agréable à lire, car elle permet de découvrir l'itinéraire de Philippe Descola, de l'enfance, il est né en 1949, à sa nomination comme professeur au Collège de France en 2000. C'est passionnant. Et on y voit l'importance de l'expérience de la nature, du passage de la philosophie à l'ethnologie, de Lévi-Strauss qui a dirigé sa thèse, de la première expérience de terrain en 1973 dans le Chiapas mexicain, de son attirance pour les Indiens d'Amazonie, avec la décision d'aller étudier les rapports à l'environnement des Atchouars, dernière grande tribu qui n'avait pas été étudiée avant lui, et où il part et où il va passer 3 ans, de 1976 à 1979, avec sa femme, ethnologue comme lui, Anne-Christine Taylor. Et voici une citation. Hein, « Il m'a semblé vite évident que, si l'on voulait résoudre ce qui pouvait apparaître comme une sorte de scandale anthropologique, des gens vivant à peu près sans institution, les Atchouars. Il fallait étudier leur rapport avec les plantes et les animaux, parce qu'il était possible que ce soit dans ce rapport que résident les clés permettant de comprendre les ressorts de leur existence collective. Et voilà pour la première partie. Alors là, et mon premier développement. Deuxième développement, il est consacré à la deuxième partie du livre qui s'intitule « Le séjour amazonien ». C'est la plus courte, je pense que c'est la plus importante. Pourquoi ? Parce que cette expérience a mis Philippe Descola, lui a fait découvrir une conception des animaux et des plantes, des rapports des humains avec eux, une conception totalement différente de nos conceptions. Et donc, c'est en particulier cette découverte d'un rapport à ce qu'il nomme les non-humains, qu'il va dénommer animisme, inverse de ce qu'il nomme le naturalisme occidental. Alors, les non-humains, je prends une citation beaucoup plus loin dans le livre. Quand je parle de non-humains, je ne pense pas seulement aux animaux, mais à cette foule d'entités qui sont en interaction constante avec nous, depuis le gaz carbonique jusqu'aux glaciers, en passant par les virus. Donc, les non-humains, ben, en fait, c'est ce que l'Occident met sous le terme de nature, mais en s'y opposant. Et ça, ce sera le naturalisme. Alors que ce qu'a découvert Descola en Amazonie, c'est que les Atchouars pensent que les animaux et certaines plantes sont des personnes doté d'une subjectivité humaine dans leur costume animal. Car, en fait, ils imputent à des non-humains, animaux, plantes, une intériorité identique à la leur. Ah, alors, intériorité. Ben, je dirais que Philippe Descola a recours à ce terme parce qu'il ne veut pas, et il a raison, utiliser la notion d'âme qui est trop connotée dans notre civilisation. Et donc, l'intériorité, ça renvoie aux états mentaux, à l'intentionnalité, à la réflexivité, à la subjectivité, à la possession du langage. Et donc, il découvre chez les Atchouars que tous ces éléments, que d'habitude, par lesquels nous, on se définit par opposition au reste du monde, il les attribue aux non-humains. Ce qui fait que les plantes, et surtout les animaux, sont humanisés, puisque ben, cette intériorité dont ils sont dotés leur permet de vivre selon les normes sociales et les préceptes éthiques des humains, et également d'établir avec ces derniers et entre eux des relations de communication. Mais ceci dit, il y a un autre concept qui intervient, hein, qui est fondamental aussi, à savoir celui de physicalité. Et par physicalité, Descola entend les caractères physiques. Par exemple, les humains sont bipèdes, la plupart des animaux, à part poulets et autres, sont quadrupèdes. Les humains ont une peau, beaucoup d'animaux ont des poils, d'autres des plumes, d'autres encore des écailles. Donc, caractéristiques physiques et capacités physiques. Voilà. Hein, et donc, pour les atchouars, les humains et les animaux entre eux, n'ont pas la même physicalité. Même intériorité, continuité des intériorités, discontinuité des physicalités. Voilà comment il définit l'animisme. Et ceci à partir de, essentiellement de deux pratiques. Le commentaire des rêves, qui est une pratique qui occupe une place essentielle chez les atchouars, et les anintes, qui sont des incantations que les humains adressent à l'âme de leur destinataire, humain ou non humain. Donc je vois que le temps passe, donc je ne peux pas développer, hein, mais l'essentiel, imaginez le choc, voilà des humains qui considèrent les plantes et les animaux en dépit de leur différence de physicalité comme de véritables personnes. Alors, j'ai dit que ça le conduit à définir notre composition du monde, hein, parce que pour lui, elle est exactement l'inverse. Et de fait, pour nous, ce qui nous différencie les humains des non-humains, c'est la conscience réflexive, la subjectivité, le pouvoir de signifier, la maîtrise des symboles et du langage. C'est ce qu'il nomme l'intériorité. Et donc pour nous, il y a discontinuité des intériorités entre les humains et ce qui n'est pas humain, qui constitue le domaine de la nature. Mais la nature, depuis le XVIe siècle, elle a été unifiée par le développement des sciences, déjà chez Descartes et à partir surtout de Darwin. Pourquoi ? Ben parce que aujourd'hui, il est évident que les êtres vivants et les êtres inorganiques sont régis par des lois qui leur sont communes et qui constituent un continuum entre tout ce qui existe dans le monde. D'accord ? Donc, le naturalisme, hein, est caractérisé par discontinuité des intériorités, continuité des physicalités entre humains et non-humains. Bon, donc, alors, cette opposition, pour moi, elle est vraiment celle qui est fondamentale dans la pensée de Philippe d'Escola, ce qui fait que je ne m'étendrai pas sur les autres, hein, parce que, comment dire, à partir de là, à partir de ces six concepts, hein, que j'ai nommés tout à l'heure, hein, eh bien, il déduit qu'il y a quatre compositions paradigmatiques de monde. Hein, parce qu'on peut aussi penser qu'il y a continuité à la fois des intériorités et des physicalités, et on peut également penser qu'il y a discontinuité des intériorités et discontinuité des physicalités pour tous les êtres qui composent le monde, humain compris. D'accord ? Et c'est ça qui le conduit à nommer le totémisme et l'analogisme. Mais je vous dis, bon, parce que ces deux points, surtout le dernier, la manière dont il déduit l'analogisme, pour moi, fait problème. Donc, elle n'est pas essentielle. Hein. Par contre, il y a un point fondamental, hein, parce que Philippe d'Escola, donc, qui a fait des études de philo, hein, s'est tourné vers l'ethnologie et l'anthropologie. Et la source de cette combinatoire, c'est une capacité anthropologique qu'il nomme mode d'identification. Hein, et voilà comment il le précise. Hein, je ne peux détecter des qualités dans un autre être, humain ou non humain, qu'à la condition de pouvoir y reconnaître celles les qualités au moyen desquelles je m'appréhende moi-même. Ces qualités relèvent à la fois du plan de l'intériorité et du plan de la physicalité. Hein ? Donc voilà, ça c'est la source, hein, et il se situe dans la descendance d'un grand ethnologue, anthropologue, dont évidemment le nom m'échappe au moment de devoir le prononcer. Tant pis. Hein? Donc voilà. Alors maintenant, mon développement suivant, et ça c'est aussi vraiment ce qui m'a intéressé dans le livre, hein, c'est... attendez que je me retrouve dans mes feuilles. C'est d'envisager le monde contemporain à la lumière de l'anthropologie. L'anthropologie étant, si vous voulez, la science qui fait la synthèse de tout ce que les ethnologues, hein, ont apporté. Bon. Et donc ça conduit à une évaluation critique du naturalisme grâce aux enseignements de l'animisme, de l'anthropologie et également de l'écologie comme science. Alors, justement, parce que, par exemple, dans le premier livre, c'est pas évident. Là, c'est beaucoup plus clair. Sur le naturalisme occidental, Descola porte un jugement ambivalent à un double titre. Parce que, d'une part, pour lui, cette révolution mentale qui a unifié avec des lois tout le monde de ce qu'on appelle la nature a été le source d'un développement sans précédent des connaissances scientifiques, mais fait-il remarquer, cette même révolution est l'une des sources de l'exploitation effrénée de la nature par l'Occident et, dans les temps modernes, par le capitalisme industriel. Alors il y a un deuxième apport, qui est l'apport politique et institutionnel, fondé sur l'esprit des Lumières, la reconnaissance de l'égalité de chaque être humain, de la possession par tous d'une raison, etc., ce qui a permis de construire des institutions différentes de celles qui régnaient jusqu'à en France en 1789. Mais là, ce qu'il fait remarquer, c'est qu'elle s'est accompagnée d'une épuration. Donc oui, c'est formidable ce qui s'est passé dans l'ordre politique et institutionnel, mais on a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les humains, seuls sujets de droit. Et donc pour lui, ça c'est un problème fondamental. Alors les perspectives ouvertes par les sociétés animistes, par l'anthropologie et par la science écologique, hein, ben, il fait remarquer qu'en maintenant des liens de complicité et d'interdépendance avec les habitants non humains du monde, bien des civilisations ont su préserver du pillage irréfléchi de la planète. Exemple, si on traite les animaux chassés comme des partenaires sociaux, on n'est pas incité à faire des massacres inutiles, comme ce fut le cas pour les bisons avec la conquête du Grand Ouest par les Occidentaux, comme vous le savez. Hein? Bon, alors... Deuxième chose intéressante, c'est que l'anthropologie, nous mettant en face d'une multiplicité d'expériences de vie, nous oblige à comprendre que notre composition du monde n'est pas la seule possible. Il y en a plusieurs. Et donc, elle nous fournit un moyen de prendre nos distances vis-à-vis du présent. Ça, c'est fondamental. Hein, et voici ce qu'il dit. Hein, l'opération qu'il s'agit de faire à présent consiste à concevoir la destinée des humains et celle des non-humains comme intrinsèquement mêlées. Il faut imposer l'idée, alors là on en vient à l'apport de l'écologie comme science, il faut imposer l'idée que ce qui est premier, ce sont des environnements fragiles où coexistent des humains et des non-humains, et dans lesquels La vie épanouie des premiers, les humains, est en très grande partie dépendante des interactions avec les seconds. Donc il faut appréhender la vie et même la vie politique comme un tissu d'écosystèmes et avoir conscience dans ces espaces des interactions complexes qui impliquent des échanges d'énergie, d'informations, lesquelles doivent être menées au mieux de façon à ce que la perpétuation de la vie des humains, il n'est pas il n'est pas pour la disparition des humains en laissant simplement le monde sans hein, non. La perpétuation de la vie des humains passe aussi par une meilleure prise en compte de leurs échanges avec les non-humains. Et il fait remarquer là, au passage, que ceci impliquerait que deux enseignements pratiquement totalement absents des cursus scolaires y soient développés, à savoir, d'une part, les enseignements de l'anthropologie et de la science écologique. J'ai épuisé mon temps. J'avais prévu une conclusion en 2 minutes, je pense, à partir de ce que Philippe Descola a publié ou dit depuis. Alors, d'une part, il pense qu'il y a des signes avant-coureurs d'une modification de notre composition du monde. Et il remarque, c'est dans une interview de 2020, qu'il y a des pays où on a donné une personnalité juridique à des milieux de vie, comme des montagnes, des bassins versants, des terroirs, et que les humains sont chargés de faire valoir les intérêts propres de ces entités. Et par ailleurs, il fait remarquer aussi que dans de nombreux pays, ou dans plusieurs pays, il dit, y compris en France, de petits collectifs ont fait sécession par rapport au mouvement continu d'appropriation de la nature qui caractérise le développement du monde aujourd'hui. Ils mettent l'accent sur la solidarité entre espèces, l'identification à un milieu, le souci des autres et l'équilibre des rythmes de la vie plutôt que sur la compétition, l'appropriation privée et l'exploitation maximale des promesses de la Terre. J'ai découvert depuis que ceci renvoyait entre autres à un passage long de Philippe Descola dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, laquelle est ce passage et son travail avec une cinéaste depuis 5 ans a conduit à la composition, à la réalisation, pardon, d'un film dont le titre est Composer les mondes en 2021, un film de 70 minutes que je m'efforcerai de faire venir à Caen, ici, si c'est possible, ou ailleurs. Bon, je crois que là, j'ai vraiment trop parlé. L'autre piste qui est déjà présente dans ce livre à certains moments, hein, c'est l'immense travail que Philippe Descola a fait sur les représentations, hein, dans un livre de 840 pages qui s'appelle « Les formes du visible » et où il défend la thèse, mais appuyé sur des analyses précises, que les images rendent visibles des inflexions dans la composition du monde alors qu'elles ne sont pas encore perceptibles ailleurs. Voilà, écoutez, peut-être qu'il y aura une suite, hein, si, enfin, c'est dans mes projets de faire la présentation, mais en 20 minutes, je ne pense pas que ce soit possible, de ce livre « Les formes du visible ».